Monsieur Jean-Christophe Labadie, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes donc avec nous dans les studios de Fréquence Mistral à Digne. Nous allons parler juste du bicentenaire par rapport à Napoléon, car cette année 2015 est importante pour Digne, essentiellement. Il y avait eu une ciné-étoile, un film déjà qui avait été projeté, un documentaire. Il y avait eu de la musique, c'était, symphonique, à la hauteur de ce que pouvait être Napoléon dans certaines fonctions. Il y en a d'autres qui étaient un petit peu moins reluisantes. Donc, Napoléon Ier était venu, il avait débarqué à Golfe-Juan-mars 1815, était donc passé par chez nous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu des manifestations précises depuis le mois de mars?
Alors, par rapport à, donc, au passage de Napoléon, effectivement, les archives départementales avaient souhaité participer donc à toutes les festivités qu'il y a autour de ce bicentenaire, qui est effectivement important dans la légende napoléonienne, puisqu'il s'agit de cet épisode qu'on appelle les 100 jours. Et c'était aussi l'occasion de montrer que Napoléon était passé dans le département, ce qui était une première, puisqu'il n'était jamais venu en tant qu'empereur, puisqu'il était vraisemblablement venu quand il était encore officier d'artillerie au moment du siège de Toulon durant la Révolution française. Mais on a effectivement, ce passage est attesté du côté de Colmar. Mais c'est vrai qu'on avait envie de marquer un petit peu cet événement, ce bicentenaire, par une exposition que vous avez vue donc effectivement lors de cette soirée au cinéma et par aussi une petite publication qui accompagne cette exposition.
Est-ce qu'il y a des traces physiques de son passage, hormis le passage qu'il est, comme quoi il s'est arrêté pour déjeuner
Alors, il y a des traces, effectivement. Comment traduire un passage par des traces? Alors, c'est vrai que vous avez raison de faire allusion à ces plaques qui ont été posées. Ici, il a dormi, ici, il a mangé, etc. On a surtout, pour nous, des traces archivistiques. Il y a des documents, effectivement, qui attestent de son passage. Et en premier lieu, évidemment, toute la correspondance du préfet de l'époque avec le ministère de l'Intérieur, avec aussi donc les forces armées, car comme vous le savez, on est dans une période de ce qu'on appelle la première restauration, et que évidemment Napoléon n'est pas le bienvenu après son débarquement, et que tout est fait pour l'empêcher de réussir ce pari qui paraît effectivement insensé, de reprendre le pouvoir, ce qu'il réussit à faire. Donc on a effectivement une trace. Alors après, on a aussi une deuxième chose qui est importante. Donc on a des traces contemporaines, donc des archives contemporaines, mais on a aussi des éléments de la légende, et en particulier la célèbre omelette de la Clappe. Napoléon, durant son passage, se serait restauré donc dans ce petit lieu qui est aujourd'hui très isolé, mais qui était sur la route, la route principale en fait, à l'époque, qui venait de Grasse et qui allait à Digne, mais qui est sûrement un élément de la légende, c'est-à-dire quelque chose qui signifie que Napoléon est un homme près du peuple, qu'il est facile d'accès, qu'il discute facilement. Ce qu'on a d'ailleurs aussi à Barème. Barème, il prend son temps pour parler avec ses hôtes, le juge de paix, avec aussi d'autres personnes. Il se renseigne. Voilà, donc ce sont des éléments qui ont été construits donc après le passage, mais qui sont très importants, car il est difficile de dissocier, dans le cas de Napoléon, l'histoire de la légende.
Et vous parlez du peuple à Digne. Comment avait-il été accueilli? Parce qu'il, quand même, il débarquait un petit peu de nulle part.
Alors oui, alors ça, c'est une question complexe. Parce qu'en réalité, les avis qu'on a sur le sujet sont des avis qui ne sont pas neutres. C'est-à-dire que quand le préfet déclare quelque chose, il l'écrit à quelqu'un qui est contre Napoléon. Et à l'inverse, évidemment, ceux qui sont de son côté ont tendance à magnifier son passage. Alors, on peut penser qu'il est plutôt bien accueilli, en général, dans les lieux qu'il traverse. Ça commence par Castellane, Barème, Digne, et que en plus, alors à Digne, c'est intéressant aussi parce qu'il arrive jour de marché, hein, le samedi matin. Donc son entrée se fait par la rue Mère de Dieu à l'époque, parce que c'est l'entrée normale de ce côté-là. Il vient en fait du côté de la station thermale, hein, donc par la route, et il arrive. Alors il faut aussi imaginer dans une petite ville qui compte quelques milliers d'habitants la marque que peut porter des soldats. Ils sont quand même autour de 1700, avec une avant-garde, Napoléon en uniforme, les chevaux, tout ce qui accompagne aussi les soldats, c'est en fait les charrettes, les mulets, hein, puisqu'il est en fait, il a été obligé d'utiliser des mulets car les routes ne permettaient pas le passage d'importants chariots à roues. Voilà, donc il faut aussi penser à cet effet très important, qui rappelle finalement un rite ancien de la monarchie qui était l'entrée royale. Alors là, ce n'est pas une entrée royale, ce n'est pas exactement une entrée impériale, puisqu'il n'est pas légitime à ce moment-là, mais ça ressemble à ça. Et donc, de fait, quand il passe, ça sera pareil aussi à Sisteron, quand il passe sur la route, évidemment, il attise la curiosité et l'intérêt. Et donc, on a vraisemblablement quelque chose de l'ordre, effectivement, alors pas l'enthousiasme, mais quand même une population qui est plutôt favorable, qui n'est pas hostile. Hein, voilà, ça c'est, je pense que c'est effectivement comme ça qu'on peut l'envisager.
Vous dites qu'il n'a pas fait une entrée impériale, mais il n'était pas déchu hein, quand il a été mis en exil à l'île d'Elbe.
Alors c'est compliqué en fait. Il y a une restauration. Donc en fait, il n'est plus empereur. Hein, voilà. Il est donc effectivement il est exilé à l'île d'Elbe, mais il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus aucune autorité. Il n'a pas de légitimité. Donc et normalement, il est censé rester sur son île. En fait, il s'échappe de son île. Hein, il part évidemment. En se cachant, voilà. Donc, et c'est important aussi parce que c'est joué avec l'effet de surprise. Hein, il faut penser aussi que le choix de passer par les Basses-Alpes, puis les Hautes-Alpes, est un choix obligatoire. Enfin, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'a pas le choix. C'est-à-dire que s'il veut réussir à monter à Paris en débarquant sur les côtes méditerranéennes, il ne peut pas passer par l'axe normal qui serait Marseille-Lyon. Car c'est un axe qui lui serait impossible. Il n'a pas les troupes nécessaires. Il aurait en face de lui des troupes importantes. C'est une région aussi qui n'est pas tellement, qui est plutôt royaliste. Vous voyez, donc il est obligé de passer par ce détour. Donc c'est vraiment aussi un pari. Hein. C'est un élément aussi de la légende. Hein, le fait qu'il parie, qu'il risque quelque chose. Et qu'il n'a pas donc d'autres possibilités que passer par là. L'avantage, c'est que c'est une surprise. En face de lui, il n'y a personne, il n'y a pas de troupes. Hein, les seules troupes qui sont à Digne, évidemment, ne pourraient pas résister à 1700 hommes. Et de toute façon, il n'est même pas sûr qu'elles soient anti-bonapartistes. Hein, ces troupes, je pense qu'elles sont aussi plutôt, on a l'impression qu'elles sont plutôt du côté de l'empereur. Voilà, donc il réussit son pari aussi, sachant qu'il a un handicap qui est quand même très important, qui est celui des routes. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait été beaucoup plus simple, évidemment, de passer par le sillon rhodanien, alors que là, il est obligé de passer par des routes qui sont mauvaises, qui sont qu'on appelle des chemins muletiers pour la plupart, et donc il est ralenti, mais l'effet de surprise est tel, et les conditions de communication de l'époque ne permettent pas à ses ennemis, hein, et à la force qui est légitime à ce moment-là, qui est royaliste, de réagir pour empêcher ce passage. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire de penser que Napoléon réussit à aller à Paris sans tirer un coup de feu, enfin, sans que le sang coule. Hein. C'est vraiment un événement absolument incroyable et qui va donc ajouter un élément supplémentaire à cette fameuse légende que Napoléon construit de son vivant. Hein. C'est un homme de communication, hein, ça c'est indéniable, mais comme l'étaient aussi les rois de la monarchie absolue, et c'est un élément qu'il faut prendre en compte pour comprendre évidemment ce retentissement de quelqu'un qui réussit à renverser, parce qu'en face, tout le monde s'échappe, hein, les troupes se débandent ou adhèrent à Napoléon. Louis XVIII repart aussi vite qu'il est arrivé. Et donc il prend le pouvoir pour cette période qui sera effectivement très courte et qui se termine, comme tout le monde le sait, en juin par Waterloo.
Oui, c'était le vol de l'aigle qui a battu de ses ailes un petit peu, mais bon, malheureusement, enfin pour lui, hein, après, oui. après on ne sait pas ce que cela aurait donné, mais bon, l'empire britannique s'est développé après Waterloo, chose qu'il n'aurait pas, peut-être pas pu faire si Napoléon était revenu au pouvoir et qu'il aurait remporté d'autres batailles. Parce que
alors c'est difficile de refaire l'histoire, évidemment. Hein, l'histoire est telle qu'elle est, on ne peut pas la changer, mais il faut aussi penser que les Britanniques, que les Anglais sont en fait depuis 1792, hein, animent toutes les coalitions contre la France, hein, et que ce sont eux vraiment les moteurs européens. C'est une petite nation, hein, il faut penser que l'Angleterre est un petit pays qui compte, je crois, 6 à 8 millions d'habitants seulement. La France est plutôt autour de 30 millions. Mais c'est un pays qui a effectivement une puissance importante grâce effectivement à son empire et qui est vraiment au cœur de toutes les coalitions contre la France. Hein, des armées révolutionnaires à la période napoléonienne. Et que c'est quand même de la force montante. C'est cet empire, hein, qui va se constituer et qui va devenir le plus grand empire effectivement au XIXe siècle. Mais refaire l'histoire, bon, c'est impossible évidemment. Mais ce qu'il faut voir quand même, ce qui est important dans cette affaire-là, c'est effectivement ce pari réussi de Napoléon, qui est un pari préparé. Hein, ce n'est pas. Il ne faut pas penser que le débarquement est improvisé, hein, que le vol de l'aigle, donc comme vous le disiez, est improvisé. Tout ça est bien préparé. Les chemins sont vraisemblablement reconnus. Il y a sans doute des espions qui sont passés auparavant pour y vérifier que le passage est possible. Peut-être aussi voir quels sont les points délicats à franchir, comme le fameux pont de Sisteron, et que tout ça est très bien préparé, que l'avant-garde de la troupe napoléonienne sait très bien ce qu'elle doit faire, à quel endroit elle doit bloquer les ponts, les passages, à quel endroit elle doit aller le plus vite possible pour justement ne pas se retrouver dans une situation compliquée pour franchir un cours d'eau. Voilà, donc tout ça est très bien préparé. Hein, il n'y a pas d'improvisation dans cette affaire, mais il n'empêche que le pari réussit.
Bien, monsieur Jean-Christophe Lavalie, merci pour cette belle leçon d'histoire, pour le bicentenaire du retour de Napoléon pour ses 100 jours. J'espère que nous nous retrouverons très rapidement. Si vous voulez faire une chronique à notre antenne, vous êtes le bienvenu. Et à bientôt.
Bah, écoutez, je vous remercie de votre invitation et à bientôt. Merci encore.
Merci à vous.
Merci.